Voilà, je la refais donc.
Nous avons parcouru le chapitre 9 de l'évangile selon Jean. Et nous avons lu cette histoire du miracle de Jésus qui redonne la vue à cet homme aveugle de naissance. Ce miracle a un but. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde ». Le prophète Ésaïe avait promis que le serviteur de Dieu viendrait et rendrait la vue aux aveugles. Aussi, le miracle que Jésus opère dans la vie de cet aveugle-né, c'est pas juste là pour être extraordinaire. Vous savez, le diable peut faire des choses plus extraordinaires. Mais Jésus fait ça pour attester, pour prouver que c'est lui qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Il est la lumière du monde. Ceux qui croient en lui ont cette vraie lumière. Et on a vu lors de la dernière prédication que Jésus lui pose dans ce face-à-face de cet homme avec Jésus. Jésus lui pose une question. Crois-tu au Fils de Dieu? Voici la question que je nous avais laissée l'autre fois. Et cet homme répond, bien sûr Seigneur, je crois. Et Jésus se révèle à cet homme. Aujourd'hui, nous allons lire la lettre de Paul, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Comme une mise en pratique de tout ce que nous avons retenu de ces trois messages. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. On lira simplement les versets 6 à 19. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 19. Je lis dans la version du Semeur. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Dans d'autres traduction, c'est marqué ce que produit la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner, d'examiner ce qui plaît à Dieu ou ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette, est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Amen. Il y a des fois des prédications qui sont plus faciles que d'autres. Est-il vraiment besoin ce matin de commenter de manière très savante ce que je viens de lire? Le verset clé que je voudrais qu'on retienne dans cette petite exhortation, c'est cette idée-là. Autrefois, certes, verset 8, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Ou dans d'autres traductions, marchez comme des enfants de lumière. Voici ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Si comme cet homme aveugle né, tu as compris en ce matin que toi, tu es un pécheur né, conçu dans le péché. J'insiste, hein? C'est pas d'abord nos actions, nos petits péchés qui font de nous des pécheurs. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois, hein? Dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Le premier jour de ta naissance et même dès le ventre de ta maman, tu es déjà pécheur. Souvent c'est une idée qui surprend, mais qui est très biblique. Parce que nous naissons dans un système, dans un environnement, dans un monde rebelle à Dieu. Et j'avais pris comme exemple deux pays en guerre. Prenons l'exemple de la France et de la Syrie. Si jamais ces deux pays sont en guerre, tout Français est en guerre contre tout Syrien. On ne peut pas dire, ah, moi, c'est le président qui a décidé, moi, les Syriens, je les aime bien. Ça, c'est toi. Mais ton représentant a déclaré la guerre au représentant des Syriens. De fait, vos deux pays sont en conflit. En la personne d'Adam et Ève, nos aïeux, nous sommes aussi dans ce monde rebelles à Dieu. Mais nous croyons que nous ne demeurons pas dans cet état de pécheur né, comme cet homme, né aveugle, mais Jésus lui rend la vue. Nous étions dans les ténèbres, dans le péché, mais nous avons cru en Jésus, nous avons cru qu'il est la lumière du monde. Cette prédication ne sert à rien si tu n'as pas encore compris ça. C'est le point de départ. Il ne faut pas brûler les étapes. As-tu déjà bien compris qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Celui qui n'a pas compris, qu'il lève la main et que je réexplique. Parce que tout ce qui suit, c'est du blabla si tu n'as pas compris ça. J'insiste, hein? Jésus est la lumière du monde. J'étais comme mort. Qu'est-ce qu'il dit là au verset 14? Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est ce que nous étions. Mais parce que j'ai cru que Jésus est la vie et qu'il m'a donné la vie, je sais que désormais, je suis un enfant de la vie. Et je suis aussi un enfant de lumière. Quelque chose a changé. Ça ne se voit pas. Je ne brille pas plus. Mon visage ne s'illumine pas. Mais il faut que je croie que si j'ai vraiment Jésus dans le cœur, alors je suis désormais un enfant de lumière. Je dois être moi aussi une lumière du monde. Il faut vraiment avoir compris ça. Il ne faut jamais sous-estimer l'œuvre du Christ. C'est lui le centre de notre foi. C'est pour ça que tous les dimanches, on se rappelle de ce qu'il a fait. Il faut comprendre ça. Crois-tu au Fils de Dieu? Voilà ce qu'il a demandé. Il n'y a pas d'autre chose. Tu crois? Amen. Tu es vivant. Mais ce n'est pas tout. Si on est d'accord que tu as compris l'évangile, et que tu as compris que Jésus est la lumière du monde. On l'a lu, l'histoire de Gédéon, où Gédéon demande des preuves à Dieu. On est surpris dans ce texte de Gédéon, et Dieu se soumet, hein. Dieu demande, il donne des preuves. Nous aussi, Dieu nous demande des preuves. Si nous sommes des enfants de lumière, alors il faut que nous nous comportions comme des enfants de lumière. Prouve-moi, viens me prouver. Prouve-le-moi que tu crois en moi. Voyez, l'être humain, l'homme moderne, est toujours très intelligent quand il s'agit de nos rapports. Entre nous, on sait être méfiant. Parce qu'on n'est pas naïf. Et moi, je ne veux pas me laisser avoir. Je ne veux pas me laisser piéger. C'est bien comme ça qu'on vit d'une manière générale. On ne veut pas se laisser avoir, nous. Hein. Waouh! Alors ça, moi, je ne méfie pas au premier sourire qui passe. Pas parce qu'il m'a dit, ouais, bonjour, et puis tout de suite. Non, non, non. Et c'est vrai qu'on a raison. Ce passage nous dit, nous sommes dans des jours qui sont mauvais. Il faut veiller. C'est bien ce qu'on a lu. Hein? Verset 15. Veillez. Ah oui, entre nous, on est... Ah, ça, qu'est-ce qu'on veille? Dieu aussi nous met à l'épreuve. Oui. Il veut qu'on lui prouve que vraiment, nous avons compris qu'il est lumière. Il faut qu'on le prouve. Et c'est là où nous sommes invités à changer de vie. Voyez, ce texte est rempli d'interdictions. Souvent, nous, on n'aime pas ça parce que c'est des choses souvent qui sont dans l'Ancien Testament. Nous, on prêche la grâce. Certes, mais dans la pratique, il y a des commandements, il y a des invitations, il y a aussi des interdictions. Verset 7, ne vous associez pas à ces gens-là. Quels gens? Ces gens dont parle le verset 6 et le verset 12. Ces gens qui trompent par des arguments, par des discours, mais qui en réalité sont sans valeur. Ces discours mènent à quoi? Verset 12. Tout ce que ces gens en font en cachette. Le discours est visible dehors. Il est beau, il est séduisant. C'est pour ça que le verset 7 nous dit, faut pas t'y associer, faut pas les écouter. Parce qu'au-delà du discours, ce qu'ils font en cachette est honteux. On ne peut même pas en parler. Ils ne le disent pas ça par contre. Mais le discours est beau. Dans notre pays ici, la France, nous ne cherchons même pas à prêcher sur le monde entier. Notre pays, la France, c'est un pays de philosophes, de cartésiens, de raisonneurs. Ah, on ne peut pas s'asseoir et discuter avec un Français parce que, waouh, vraiment, au niveau intellectuel, les Français sont quand même... Nous sommes tous très, très intelligents. Maintenant, les discours mis à part, essayons de voir maintenant la vie. Ce qu'il a dit, en pratique, où ça mène? Et ce texte nous dit que c'est stérile. Qu'est-ce que ça veut dire stérile? Je veux bien qu'on comprenne les mots. C'est-à-dire que ça ne mène à rien. C'est ça la stérilité. C'est beau le discours. Et puis soyons libres. La liberté pour tous. Le mariage pour tous. Les enfants, le bac pour tous. Ça crée des chômeurs. Le mariage pour tous. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour avoir des enfants, on est obligé de faire toutes sortes de montages. La liberté pour tous. Dans ce cas, il faut que tout le monde ait la liberté d'expression. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? On est dans une société de censure. Il y a de la censure encore. Il y a plein de censures. Il y a quelques mois, il y a eu un scandale parce que une affiche a été interdite dans le métro. Vous vous souvenez, je vois les têtes. Une affiche qui parlait de... une affiche qui parlait des chrétiens persécutés d'Orient. Quand je pense à ça, je suis vraiment... Ça dit, j'ai même pas de mots. Combien d'affiches dégueulasses on a dans Paris qui, elles, ne sont pas du tout censurées, qui sont là chaque jour, qui sont partout. La liberté d'expression, c'est bien en soi. Il faut qu'on se réjouisse quand même d'être dans un pays libre. Mais nous dénonçons une hypocrisie. Nous la dénonçons. Oui, mais parce que finalement, quand c'est Marine Le Pen qui veut prendre la parole, on dit qu'elle est d'extrême droite. Et pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir la liberté d'expression aussi? Elle a son parti politique comme les autres. Faisons attention à ce que nous disons quand même à la chaire le dimanche. Je vais essayer de me maîtriser. On n'est pas là pour faire de la politique, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voyez, ce texte nous invite à réfléchir, à examiner. Nous voyons aujourd'hui, pour mes enfants qui sont à la cantine, d'autres enfants qui viennent leur dire « ne mange pas de porc ». Bon, première réaction peut être, bon, par amour, par charité chrétienne, peut-être même pour gagner cet ami à l'évangile, fais comme il dit, ne mange pas de porc. Après avoir réfléchi, j'ai changé d'avis. Mange bien du porc. Oui, mange beaucoup de porc. Oui, oui, mange bien du porc. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le discours paraît joli. Le porc, est... oui, mais derrière, jamais ça va s'arrêter là. Ça va commencer par le porc, ça va finir par ton habillement, et demain, mon fils va devenir autre chose. Donc je lui dis, tu mangeras bien du porc. Oui, oui, tu mangeras bien du porc. Dommage que les municipalités cèdent souvent et ne font plus de porc. Voyez, c'est pas de la méchanceté, hein, je veux bien comprendre. Ce texte nous dit, verset 7, ne vous associez pas. Pourtant, c'est bien la Bible, hein, qui dit, aime ton ennemi. Mais il dit, il y a des domaines dans lesquels ne t'associe pas. Verset 11, ne participez pas aux pratiques stériles. Verset 15, ne vous comportez pas comme des insensés. C'est comme si on t'a expliqué quelque chose que tu as compris. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas compris. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui est insensé, c'est-à-dire qui ne comprend pas. Des fois, on le fait. Et pire, on trouve des arguments pour justifier notre mauvais comportement. Quelle tristesse. Je m'inclus moi-même dedans, bien sûr. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Réfléchissez, examinez, ne vous associez pas, ne participez pas à cette vie de ténèbres. La vie de lumière consiste d'abord à se détourner de la vie de ténèbres. Maintenant, il faut que je marche résolument dans la lumière. Et là, que nous dit ce texte? Ce texte nous dit, eh bien, marcher dans la lumière, c'est d'abord être réveillé. Ce verset 14 nous dit, réveille-toi. Et si tu es réveillé de mort que tu étais, verset 15, veille. Tu es réveillé. Maintenant, tu veilles. Et tout ce que tu dois faire désormais, verset 9, doit être bon, juste et vrai. Ta vie doit être guidée par la bonté, la justice et la vérité. Les trois mots, entre guillemets, j'allais dire forment un mot, mais je vais dire ça forme une seule idée. Ils sont inséparables. La bonté, c'est faire ce qui est bon. Mais quand on lit la Bible, faire ce qui est bon, c'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. La justice, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, c'est faire ce qui est juste par rapport à Dieu. La vérité. Vous savez que nous sommes dans un monde où il n'y a plus de vérité absolue. Ah oui, ce qui est vrai pour toi, si tu te sens bien, ah ben tant mieux, moi c'est ça ma vérité. Eh ben, moi aussi je me sens bien. Donc tant mieux, on cohabite chacun dans sa propre vérité. La Bible ne raisonne pas du tout comme ça. Désolé de vous choquer. Pour la Bible, il y a une vérité. Il faut vraiment qu'on se comprenne. C'est celle de Dieu. C'est pour ça que le message de la Bible est dur. C'est un message qui est dur à prêcher en France. C'est un message qui est dur à prêcher en France. Parce que si nous voulons le prêcher avec bonté, avec justice, avec vérité, alors il faut qu'on accepte de dire que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas révélé dans la Bible, est mensonge. Ouh là là, le gros mot. Là là, ça c'est vraiment le mot où on va se faire passer pour des fondamentalistes illuminés. La vérité sur Dieu est dans la Bible. On voit plein de pratiques spirituelles qui se développent. Ma femme a une amie, c'est la maman d'un copain de classe de Daniel, qui fait du yoga. Franchement, le yoga a beaucoup de vertus. Hein. C'est vraiment... Léon s'était très tenté de le faire. Moi, je n'y voyais pas spécialement de mal. Mais en discutant un peu plus en profondeur avec Lynn, cette dame très gentille du reste, on s'est rendu compte que pour elle, donc c'est son témoignage, hein, je ne le généralise pas, mais bref, le yoga est une étape. Oui, il y a le bien-être et tout ça. Il y a un côté spirituel. Elle nous explique qu'à un moment donné, elle sort de son corps, qu'elle communique avec des esprits. Je ne suis pas spécialiste, hein, je ne veux pas dire que tous ceux qui font du yoga le font. Mais moi, ça m'interpelle donc. Parce que ça, en guillemets, on ne te le dit jamais quand tu vas t'inscrire à un cours de yoga. Mais ceux qui y sont depuis longtemps et qui franchissent des paliers et qui savent ce qui se fait en cachette, ceux-là peuvent te le dire. Il y a aussi une dimension spirituelle. Examinez toutes choses. Ne nous laissons pas conformer